Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser ce soir pour évoquer nos amours et nos amours. Et nos amours, c'est un poème d'Apollinaire, le pont Mirabeau, mais on a aussi envie de dire et nos amours dans tout ça, comme si c'était secondaire, comme si on avait peur de les oublier, mais c'est peut-être le cœur de tout, ce qui nous révèle tout, et peut-être pas l'amour, mais nos amours avec toutes leurs aventures, et ce soir, nous en parlerons avec Claire Marin. Bonsoir Claire Marin.
Bonsoir Frédéric Worms.
Merci d'avoir accepté de venir parler de nos amours, mais en fait pas seulement, puisque vous venez de publier un livre qui s'appelle Rupture, et c'est pas seulement la rupture amoureuse, c'est un ensemble de ruptures qui servent de révélatrices pour nos vies. J'avais envie de commencer, Claire Marin, vous qui êtes philosophe, vous qui avez travaillé beaucoup sur le soin, par une citation qui donne son titre à un livre qui n'est pas un de vos livres, mais qui est un livre de Sophie Calle. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un livre sur la rupture.
Prenez soin de vous.
Voilà, elle part d'un mail qu'elle reçoit de la personne qui la quitte et qui termine ce mail d'une façon qu'elle trouve dévastatrice et dans une ironie qu'elle ne trouve pas du tout drôle. Il lui dit, quand il la quitte, prenez soin de vous. Et j'avais envie de, en lisant Rupture, après vos autres livres, je me disais que là, vous, en lisant ce message de rupture qui se termine par prenez soin de vous, vous auriez beaucoup à dire.
Oui,
Est-ce que je me trompe, clairement?
Non, ça a posé une question plus générale de la manière dont on peut rompre. Et de l'impossibilité peut-être de trouver les mots justes, quoi qu'il arrive, pour que la rupture soit douce, parce que par principe, sans doute, elle ne peut pas l'être. Quand s'y ajoute quelque chose qui sonne comme de l'ironie, ça redouble sans doute la violence de la chose.
Mais effectivement, il n'y a pas forcément de l'ironie dans la personne, l'homme en l'occurrence, qui dit à Sophie Calle, prenez soin de vous, mais elle le prend comme ironique, parce qu'en un sens, prenez soin de vous, ça veut dire, elle le prend comme un abandon en réalité, c'est-à-dire, je ne prendrai plus soin de vous, débrouillez-vous, elle le prend pas du tout comme un geste de confiance, comme si il la confiait à un soin, mais il l'abandonne à un soin, alors que il aurait pu, en voulant en dire plus, peut-être qu'il s'est nui à lui-même, cet homme.
Oui, peut-être aussi qu'il utilise cette expression qui est banale en la vidant de son sens parce qu'il ne sait pas quoi dire. Et nous, on la charge de sens, cette question du soin. Et sans doute que passer par des formules toutes faites comme ça, c'est aussi une manière d'éviter la difficulté qu'il y a à rompre. Peut-être aussi en expliquant le geste de rupture, en trouvant les mots qu'on voudrait consolateur d'une certaine manière. Mais c'est vrai que c'est une manière de la renvoyer à sa solitude.
Alors, pour moi, Claire Marin, en lisant le livre Rupture, le véritable point commun que j'ai trouvé avec votre travail sur la maladie ou sur le soin, c'est d'abord l'expérience, à travers la rupture amoureuse comme à travers la maladie, de quelque chose qui nous dépasse. Ce qui me frappe, c'est que, un peu comme la vie dans la maladie, dans la rupture amoureuse, mais aussi les autres, finalement. Vous dites, il s'agit d'expériences où il y a quelque chose de plus fort que nous. Je vous cite d'ailleurs, « Quand le sujet est convoqué, capté, ravi par plus fort que lui, la passion, la souffrance, quand il est ainsi dépossédé et redéfini par une force supérieure à la sienne. » Et là, vous dites « l'amour, la douleur, le chagrin ». Donc l'amour, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise, c'est quelque chose qui nous traverse. Comme la maladie, finalement, pour vous, on est traversé par des forces très puissantes.
Oui, c'est ça. C'est vraiment l'expérience d'une force qui nous traverse et qui parfois nous dévaste ou qui nous emporte, parce que ça peut être aussi une expérience
extatique,
agréable,
heureuse quand même.
Quand l'amour nous traverse pour nous fuir d'une certaine manière, dans ces cas-là, effectivement, il y a quelque chose de très destructeur. Mais oui, je voulais dire ça, cette confrontation avec une dimension tout autre, avec la dépossession et le sentiment d'être pris dans un mouvement dont on n'a ni décidé, ni l'idée de ce vers quoi il nous mène. Donc une forme aussi assez angoissante de cette expérience.
Oui, parce que quand vous avez, au début de votre travail sur la maladie, vous aviez écrit un livre très important, Violence de la maladie, violence de la vie, et puis un récit qui s'intitulait Hors de moi. Et donc il y avait déjà cette idée que vous venez de rappeler, de dépossession, comme si on se croit maître de soi-même, on se croit être un sujet, ce moi là dont vous parlez, ce sujet qui dit je t'aime, comme s'il l'avait choisi, comme s'il avait maîtrisé absolument tout dans cette phrase, comme s'il était le sujet justement de ce verbe. Et en fait, pour vous, notre subjectivité, elle est intégralement fragile, en fait, et susceptible à la fois d'être construite, mais détruite.
Ouais, tout à fait. Il y a, dans beaucoup des réflexions que j'ai essayé de mener, cette idée d'une fragilité fondamentale de la subjectivité, de la conscience, qui elle aussi peut être destituée de son exercice lucide très facilement. Je crois que c'est une expérience assez inquiétante, là encore une fois, très angoissante de voir les moments où on perd cette familiarité avec sa propre conscience, avec son exercice. Et puis il y a
avec soi-même dans ce qu'on croit de plus invulnérable.
Voilà, avec aussi l'image qu'on se fait de son identité, de son caractère, de
il n'y a pas de forteresse intérieure, quoi. Les stoïciens parlaient de forteresse intérieure. Pour vous, je ne sais pas s'il y en a une, en fait.
Tout est relativement fragile et disons que s'il y a des pierres, elles sont mouvantes, quoi. Les choses peuvent se reconstruire. Il y a quelque chose de plastique, d'une certaine manière. Mais cette idée, effectivement, de voir l'idée même de volonté destituée, ça c'est une expérience qui est très troublante et qui est commune, effectivement, à l'expérience de la maladie, de la passion amoureuse, du deuil aussi, où le sujet peut être complètement dépossédé de toute volonté, toute envie, toute capacité de décision.
Oui, on parlera du deuil d'ailleurs à un moment, Claire Marin, parce que dans la rupture, vous incluez toutes sortes de choses. C'est vrai que c'est un terme qui peut servir de genre à toutes les séparations, mais qui est aussi un certain mode de séparation différent d'autres modes.
Ouais,
quand quelqu'un meurt, on peut dire qu'il y a rupture, mais il n'y est pour rien. On parle souvent de rupture quand c'est un choix de l'autre, quand c'est pas, par exemple, justement, une maladie qui nous l'enlève. Est-ce que pour vous, vous faites ce genre de distinction ou pour vous, c'est d'abord l'expérience générale de la perte et de la séparation.
Le deuil serait une rupture au sens où ça crée une rupture radicale dans mon existence.
Oui, donc, voilà, rupture en moi. L'effet du deuil est une rupture, voilà. Mais personne n'a rompu avec moi.
Non, personne n'a rompu, mais tout dépend aussi les formes de la disparition. Mais dans l'un des chapitres, j'essaye de montrer comment, dans certaines formes de vieillissement, ou d'accidents de la vie qui conduisent à la disparition d'un proche, il y a quelque chose comme une forme de, alors je sais pas, peut-être que c'est contradictoire, mais de rupture involontaire. C'est-à-dire que l'autre est tellement transformé que de fait, par son attitude, par la personne différente qu'il est devenu sous l'effet d'un accident, d'une pathologie, etc., malgré lui, involontairement, il met un terme à la relation qui était la nôtre, puisqu'il est tellement différent.
Oui, alors ça, c'est un changement involontaire, donc, mais c'est pas non plus le deuil, ça, c'est plutôt une séparation qui se fait presque sans déclaration volontaire.
Oui, mais c'est presque comme un deuil
pour
prématuré.
Vous, c'est déjà proche du deuil, parce que c'est involontaire, justement.
Parce qu'on reconnaît plus la personne, on peut plus avoir avec elle la relation qu'on avait auparavant. Donc, je la reconnais physiquement, je sais qui est cette personne, mais tout ce qui faisait la complicité de notre relation ne peut plus exister.
Et pour vous, ça fait une différence avec la rupture volontaire, celui qui dit, par exemple, je te quitte. Il y a une différence morale entre celui qui semble décider librement de la rupture, vous en parlez très fortement, hein, celui qui dit, et il y a cette question du jugement aussi, de son rapport à moi, en fond, de son évaluation. C'est une chose pour vous très différente de celui qui juste disparaît, quoi que ce soit par la mort ou comme par ce changement insensible que vous décrivez.
Ah oui, c'est évidemment pas la même responsabilité, c'est pas la même intention de mettre un terme, donc les choses sont effectivement différentes, là les schémas diffèrent, mais dans la blessure que ça engendre pour celui qui se sent abandonné ou quitté, il y a peut-être des choses qui sont similaires.
C'est une vraie question, je pense, Claire Marin, que vous abordez implicitement, mais très fortement, à mon avis, dans le texte. Les psychologues du deuil montrent que même quand le deuil est évidemment involontaire, c'est-à-dire que la personne a eu un accident, il y a quand même un moment qui est normal dans le processus du deuil, où on lui en veut. On dit, mais pourquoi tu m'as fait ça? Bien sûr. Veux dire, t'as pris ta voiture, pourquoi t'es tombé malade, espèce de salaud, etc. Il y a un moment normal d'invective, de colère, comme si, en fait, c'était toujours une rupture, malgré tout, entre des humains volontaires, entre des sujets.
Ouais, tout à fait. Je pense que la colère, qui est un élément aussi sur lequel j'ai un peu travaillé.
Ouais. Dans ce livre, elle apparaît, mais pas tant que ça, finalement, dans la rupture, si. Ou alors j'ai lu trop vite, Claire Marin.
Peut-être qu'elle est finalement pas tant thématisée que ça. Peut-être qu'il
dans vos livres sur la maladie, oui, elle apparaît fortement. On se met en colère contre son corps, contre la médecine, contre la maladie elle-même.
C'est vrai que j'ai peut-être plus insisté sur le chagrin que sur la colère. Mais effectivement, mais à un moment, je dis comment cette colère, justement, permet de passer d'une forme d'abattement, de passivité, de presque léthargie, en tout cas de renoncement à un certain dynamisme. Et la colère, elle, redonne de l'élan. Donc, elle a ce rôle moteur,
je crois. Elle fait partie de ce chemin vers...
Le retour
vers la vie. Une reprise qui n'est pas toujours garantie, comme toujours chez vous. Il y a toujours un risque que ce ne soit pas possible, vous le dites très fortement. Et ça, c'est quand même aussi une de vos thèses. Dans l'idée qu'on est dépassé par une force, ça veut dire aussi que malgré tout ce qu'on nous dit souvent, ça va aller, tu peux te remettre. C'est pas garanti. Votre livre se termine bien sûr sur des ouvertures, sur une reprise en quelque sorte. Mais c'est pas tout à fait le dernier chapitre. D'ailleurs, c'est l'avant-dernier en fait. Il y a une reprise possible, mais jamais garantie. Vous dites, au fond, je tiens à vous dire tout de suite, ça n'est pas absolument évident. C'est pas toujours le cas.
Non, ça n'est pas le cas. On sait bien que on peut mettre fin à ses jours à la suite d'un chagrin d'amour. On sait qu'on peut rester très amoindri, très affaibli psychologiquement après un deuil, qu'on peut ne pas s'en remettre et vivre à demi. Donc, je trouve que c'est d'une grande violence que de vouloir à tout prix imposer ce discours très positif et c'est là encore une forme de maltraitance presque parce que ça nie la violence qui a été vécue.
On croit soutenir mais là on enfonce
en
finalement
fait, les discours,
la personne la rend responsable en plus de ne pas y arriver.
Et c'est une fausse consolation parce que en réalité on oblige l'autre à rester dans la posture de celui de l'incapable d'une certaine manière en lui disant qu'il devrait pouvoir s'en sortir, que tout le monde s'en sort et que lui il n'y arrive pas. Donc c'est une manière de nier sa souffrance.
Alors je vous cite, en fait je cherchais dans les dernières pages, mais c'est plutôt dans justement le chapitre qui s'intitule « La rupture amoureuse ». Je vous cite hein, « Que me reste-t-il quand tu me quittes? Comment m'en sortir ?» Qu'on soit bien clair, et là on vous entend dire « attention, pas d'illusion, soyons lucides au fond, qu'on soit bien clair, c'est la lucidité, qu'on soit bien clair, il n'est pas assuré que cela soit toujours possible. On meurt encore d'amour. On peut aussi s'enliser dans la rupture, la subir sur un mode tragique, se vautrer dans son drame, le vivre comme une expérience de la malédiction. Dans ce « on meurt encore d'amour », il y a aussi votre indignation devant une certaine idée que ça ne se fait plus finalement, que c'était un drame un peu, c'est culturel, ça aurait été culturel, ça aurait été peut-être le romantisme qui nous aurait, avec ces hommes, ces femmes qui se suicident d'amour, Werther et beaucoup de femmes d'ailleurs, plus souvent que des hommes dans la littérature. Mais là vous dites, c'est pas un truc passager, culturel, on meurt encore d'amour parce que justement on est pris dans des forces vitales et mortelles. Donc.
Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cette force qui m'entraîne, qui me traverse, on ne sait pas où elle nous conduit, elle peut nous conduire au désespoir le plus profond. Et cette idée, elle n'est pas du tout dans l'air du temps, elle n'est pas du tout dans cette logique du rebond, de la reconstruction, de la réinvention de soi, mais cette air du temps est très finalement simplificateur, réducteur et nie la force des passions tristes ou joyeuses pour reprendre une vieille référence. Et ces passions tristes, elles sont potentiellement destructrices.
La vieille référence, la Spinoza, c'est justement quelqu'un qui pensait que l'individu, c'est quelque chose d'assez fragile, qui est traversé par des forces, qui peut certes se composer une vie heureuse, une vie sage, mais il faut affronter d'abord des forces, justement, qui sont très, très puissantes, mais qui sont justement positives ou négatives, quand même.
Oui, il y a cette... Ouais. Bipolarité qui doit vous plaire.
Exactement. Bah, vous aussi, quand même. L'important, c'est finalement de ne pas se donner l'illusion de la maîtrise.
Oui, je crois qu'effectivement, l'une des questions est dans ce point-là. On est presque éduqué dans cette idée que on y arrivera, on pourra les comprendre, et il suffira d'en discuter, etc. Et je pense que ce que ces expériences nous font redécouvrir dans un monde où on pense que tout peut se calculer, se maîtriser, c'est à quel point on est rapidement, justement, plus grand-chose face à des sentiments.
Alors, il y a aussi quelque chose qui m'a surpris, Clairement, c'est que justement dans ce rapport à ce qui nous dépasse, vous citez assez peu la psychanalyse, le désir n'est pas forcément cette force, c'est encore plus profond, vous allez chercher jusqu'à la vie, quelque chose qui nous constitue comme sujet, ça n'est pas forcément le désir comme lié à la sexualité, par exemple, c'est quelque chose d'encore plus profond, puisque ça peut nous détruire totalement. Est-ce que ça a trait vraiment à une sorte de philosophie de la vie, au fond, au cœur aussi de votre travail antérieur?
On retrouve effectivement quelque chose peut-être de plus fondamental, comme un élan vital ou un dynamisme premier. Persévérer dans son être. On a quelque chose peut-être de cet ordre, quelque chose du désir de vivre qui nous abandonne ou qui revient. Et on est en deçà, je ne sais pas s'il faut le dire avec des métaphores spatiales, mais effectivement de la seule question du désir sexuel ou de la libido, etc.
Réduire ça à une fonction parmi d'autres, même si ce n'est pas ça que fait finalement la psychanalyse, a aussi une philosophie de la vie derrière, mais disons si on réduisait ça à une frustration d'un désir particulier, on serait en train de mutiler cette expérience.
Oui, elle est plus profonde et plus vaste, j'aurais tendance à dire, peut-être même plus archaïque. Je sais pas quelle image il faudrait employer, mais on a quelque chose de fondamental et de vital. Ouais. Je vous rejoins, Frédéric.
Mais alors, à l'inverse, maintenant, parce qu'il y a quand même quelque chose d'autre qui me frappe aussi dans votre analyse de l'amour, et puis après, il faudra ouvrir sur les autres formes de rupture, et aussi les autres aspects de l'amour, d'ailleurs, que la rupture. Heureusement, il y a pas que ça. Finalement, ce qui est frappant, c'est donc qu'il y a cette force qui nous brise, ou nous constitue, mais que devient le « tu » quand vous dites ici « que me reste-t-il quand tu me quittes » Qu'est-ce qui me brise exactement? Est-ce que c'est l'amour, la vie, ou est-ce que c'est l'autre, l'autre singulier? C'est-à-dire, au fond, l'amour, c'est aussi l'amour de quelqu'un ou de quelqu'une. C'est lui ou elle qui me quitte. Et pourtant, il y a cette idée qu'il fait surgir en moi non seulement la perte de lui, mais une sorte de, justement, de ce qu'on vient de décrire, ce que vous venez de décrire très puissamment, c'est-à-dire cette vie en nous. Alors finalement, qui nous quitte? Est-ce que c'est quelqu'un ou est-ce que c'est justement cette force fondamentale?
Alors, ce quelqu'un qui part, il part avec tout son monde, qui était un monde partagé, et il part effectivement avec l'énergie qui était générée par cette vie commune, ce partage, etc. Et plus profondément, effectivement, sans doute que si la perte de l'amour est si douloureuse, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui alimentait ce désir de vivre, sans aucun doute. Donc peut-être que l'autre, finalement, c'est un peu cruel de dire la chose comme ça, mais ou un peu cynique, mais n'était que l'espèce de vecteur de quelque chose, là encore, de plus grand que lui.
Mais alors là, c'est ce que dit un peu Freud, justement. C'est-à-dire qu'on a une libido, comme ça, qui est le désir et la vie en général, et elle se pose sur des objets. Et puis, finalement, c'est d'ailleurs pour ça qu'il parle d'objets. Et puis, quand il y en a un qui s'en va, que ce soit par la mort ou par la séparation, le désir souffre un peu, mais bon, il peut se réinvestir. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous donnez une portée plus forte aux relations individuelles, à ce qui nous constitue quand même singulièrement. C'est-à-dire ce qui vous fait vous, ou nous, vous ou moi, ce moi ou ce toi, c'est quand même toujours du singulier. C'est-à-dire, ça détruit aussi quelqu'un de précis. C'est pas juste, on n'est pas juste traversé comme ça.
Oui, oui. Non, mais c'est aussi pour ça, ça s'entend dans le passage que vous avez lu, Frédéric Worms, ouais. que j'ai voulu employer aussi du je et du tu et montrer comment ce tu aussi progressivement va devenir un il ou un elle. C'est-à-dire comment cette proximité, cette intersubjectivité dans laquelle on s'est au moins partiellement construit, se défait et comment elle laisse place à une forme de distance et à la disparition de cette espèce d'exclusivité.
Oui, parce que vous décrivez très bien aussi la singularité du corps aimé. Vous dites « parce que l'amour laisse en moi les traces du corps aimé, parce qu'il a façonné le mien, il y reste longtemps inscrit ». Et je laisse au lecteur de découvrir la suite. Et puis, il y a évidemment les souvenirs, les lieux, les images, les odeurs, les musiques, les paroles, les chansons ne cessent de raviver douloureusement ces traces sensibles. Donc, il y a aussi l'idée que quand même, ce qui se détruit en nous, c'est pas seulement une capacité à vivre en général, c'est notre histoire, c'est notre singularité. Jusque dans le corps, vous dites, les traces du corps aimé qui a façonné le mien.
Oui, je voulais insister sur la place du corps dans la rupture, sur le vécu physique, sur l'arrachement charnel, sur ce que c'est que d'avoir l'habitude du corps de l'autre au point qu'il soit presque le prolongement d'une autre. J'insiste sur aussi ce que ça veut dire d'habiter avec quelqu'un et on voit tout ce vocabulaire de la proximité, de l'habitude, du mode d'être partagé. Il y a quelque chose, effectivement, comme une espèce de chorégraphie du quotidien. Et quand l'autre disparaît, il y a ce vide qui est douloureux.
Pour qu'il y ait rupture, il faut qu'il y ait eu un tissage, il faut qu'il y ait quelque
exactement,
chose de,
qui se soit noué. Exactement, je parle à un moment d'une espèce de chimère. C'est-à-dire il y a un corps invisible, mais qui est composé des deux corps de ceux qui ont vécu ensemble.
Alors vous citez la musique, vous nous avez proposé un morceau de musique qu'on va entendre maintenant. Vous nous direz ce qu'il ravive en vous et j'espère que c'est aussi des forces joyeuses, Claire Marin.
Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser et nos amours, ce soir avec Claire Marin qui vient de publier Rupture, ni au singulier ni au pluriel, puisque le S est entre parenthèses, on va en parler, Claire Marin, mais d'abord, peut-être pourrez-vous nous dire pourquoi ce morceau de musique, ce piano de Tigrane Amassian au milieu de cette discussion sur la rupture et l'amour aujourd'hui et la manière dont vous les pensez et les décrivez.
Alors d'abord pour la beauté évidemment, mais ensuite pour le titre qui est Fides toi, et ça me semblait important dans une émission en parle.
Comment est-ce que vous le traduiriez ces deux mots latins, Claire Marin?
C'est-à-dire évidemment c'est ta foi, ouais. Mais il y a aussi derrière ça les idées de confiance et de fidélité. Donc je vous laisse ces mots pour contrebalancer la rupture, le déchirement, la trahison, et aussi parler de ce qui nous fait tenir, de ce qui nous soutient, de ce qui résiste.
Fides, c'est donc la foi, c'est ce qui donne aussi la confiance, et tua, c'est... Donc en latin, on peut dire... ta confiance, c'est ce en quoi j'ai confiance. C'est comme si dans l'amour aussi, une réciprocité des confiances, c'est notre idée de l'amour finalement, et de l'amitié d'ailleurs aussi.
Exactement. C'était ça que j'aimais bien dans cette idée, c'est que elle pouvait contenir toutes les formes de relations à Dieu, à un ami, et même à un étranger parfois, qui nous font tenir quand d'autres relations importantes s'effondrent.
Alors, justement, à travers l'amour et l'amitié, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus général qui se joue de votre livre? Ça s'appelle Rupture. Il y a ce S entre parenthèses. On a l'impression que vous voulez traiter de toutes les relations humaines, mais de manière un peu obstinée, comme une petite musique, justement, comme ce morceau de piano, quand même un peu mélancolique, mais vous venez de dire qu'il donne plutôt confiance. Quand même, vous en revenez toujours à l'amour, finalement. L'amitié est aussi derrière. On a l'impression que la trahison amicale est aussi une possibilité, tout aussi destructrice, peut-être. Vous allez nous le dire, d'ailleurs.
Ça aurait pu tout à fait être un chapitre du livre.
La trahison, il n'y a pas de...
Les premières grandes souffrances, ouais. C'est quand on est petit et que notre meilleur ami nous a trahis. Ouais. C'est peut-être la première expérience avant l'expérience de la rupture amoureuse et la plus marquante. Et des adultes aussi peuvent dire à quel point ils sont attristés de la trahison ou de la disparition d'un ami.
Mais justement, Claire Marin, c'est des expériences terribles dans l'enfance, mais en même temps, elle suppose qu'il y a des gens qui ne trahiront pas, ce seront les parents, les figures d'attachement, comme disent aussi les psychologues ou les psychanalystes, et au fond... Elles sont fondamentales, les ruptures amicales, parce qu'elles sont dévastatrices, mais elles n'ébranlent pas tout non plus. Est-ce qu'elles peuvent nous détruire tout aussi profondément qu'une rupture amoureuse? En fait, quand même, vous en revenez à cette rupture amoureuse, puis après, on peut décliner tous les degrés, finalement, jusqu'à la rupture, en effet, dans le travail, dans le social,
Alors, je ne ferai peut-être pas la même hiérarchie que vous, Frédéric Worms, parce que je pense qu'une rupture amicale
peut aussi...
être vraiment dévastatrice. Qu'on peut se construire sur le long terme avec un ami qui constitue une forme d'alter ego et que, à certains égards, la trahison amicale, à mon avis, n'est pas nécessairement moins forte que la trahison en amour.
Parce que, de toute façon, au fond, ce qui nous constitue, c'est cette confiance primitive, c'est ce que vous êtes en train de dire. Et puis, donc, n'importe quelle rupture, finalement, est-ce que, par exemple, ce que vous appelez rupture de contrat, comme si c'était un peu... Est-ce que c'est, d'ailleurs, une image qui affaiblit ou qui aggrave le cas, mais une rupture de confiance dans le travail, une rupture de confiance avec un médecin, avec quelqu'un à qui on confie sa vie, est-ce que ça vient pas toujours réveiller le fait que notre vie est fondée sur la confiance, que c'est pas justement quelque chose de secondaire, c'est pas un luxe?
Ah oui, non, je pense qu'effectivement, ça le met clairement en évidence. Dans une société où peut-être cette valeur aussi a été banalisée ou un peu dévaluée ou vidée de son sens. Où on va parler de confiance dans des publicités ou des choses de ce type. Sans doute
qu'en politique aussi.
En politique aussi. Sans doute qu'il y a dans les expériences de rupture, effectivement, ce grand ébranlement de voir une confiance fondamentale s'effondrer et que cette expérience-là, elle est là encore assez dévastatrice.
Mais je trouve, Claire Marin, que vous êtes à la fois plus pessimiste et aussi plus optimiste que des sociologues qui parlent, par exemple, comme Zygmunt Bauman, des relations liquides, parce que quand ils disent dans la modernité... C'est des individus qui nouent des contrats, qui s'échangent, et donc ça fragilise tout. Il me semble que, pour vous, vous êtes à la fois plus pessimiste, parce qu'en fait, les ruptures vont encore plus loin que ne disent les sociologues de la liquidité.
Ouais.
Mais en même temps, c'est un peu optimiste, parce que ça veut dire aussi que nos relations peut-être construisent beaucoup plus profondément que les institutions sociales. C'est pas le mariage, c'est pas les contrats, justement, qui font nos liens. Ça peut aussi être beaucoup plus fort. Donc, c'est beaucoup plus grave parce que ça peut aussi être beaucoup plus fort.
Ouais, c'est exactement ça. Exactement cette idée que, il y a la force des relations. elle se manifeste justement dans le plus tragique et dans ce qui résiste à presque tout. C'est pour ça que la perte...
Ce qui résiste à presque tout, j'aime beaucoup le presque.
Oui, il y a un moment où, évidemment, la relation s'éteint du fait de la disparition de l'un ou de l'autre. Mais presque tout quand même.
Bien sûr, mais elle peut aussi, dans certains cas, non pas être totalement invulnérable, mais avoir conscience de ses failles et peut-être, ce faisant, pouvoir y résister.
Oui, effectivement. Peut-être que c'est ça aussi le gain, entre guillemets, de la rupture. C'est qu'on se rend compte de la nécessité de prendre soin de la relation de confiance qui existe.
En sachant bien que, justement, elle n'est pas magique, au fond. Elle n'est
Exactement.
Pas surnaturelle.
Et qu'elle,
elle est vitale, elle mais est, pas magique.
Elle aussi fragile et soumise à des ébranlements, et qu'elle elle mérite effectivement qu'on la choie.
Mais alors, justement, qu'on la choie, c'est un terme magnifique. Justement, par rapport à ces sociologues, il vous arrive quand même dans le livre de dire dans notre société, les individus, etc. Mais est-ce qu'ils ne vous paraissent pas un peu superficiels, justement, ceux qui critiquent aussi notre modernité comme responsable de ces divorces, de ces ruptures, de ces séparations? Au fond, est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'il faut être nostalgique d'une société où les gens ne pouvaient pas rompre, étaient attachés, justement, étaient en quelque sorte pas enchaînés, mais en tout cas, disons, la société bannissait les ruptures, avait peur de la rupture. Aujourd'hui, elle les permet, elle ne les stigmatise plus, mais c'est peut-être pas plus mal, au fond.
Je pense que quand le contrat est vécu comme une aliénation, une forme d'emprisonnement par le sujet, effectivement, il n'a pas de raison d'être, et c'est peut-être l'un des acquis de notre modernité d'avoir libéré certains d'entre nous de ces liens forcés. Maintenant, dans justement la démultiplication des séparations ou des ruptures, il y a peut-être aussi quelque chose parfois d'un peu facile.
On se quitte, on se reprend, ça s'en va et ça revient. Les
moyens de faire tenir ce qui pourrait peut-être tenir autrement. Peut-être qu'il y a aussi une forme de lâcheté dans certaines, dans l'abandon de certaines relations.
Le narcissisme aussi, on supporte pas la petite différence et au premier désaccord venu, ça se fissure.
Oui, on va manquer sans doute de patience et de courage dans la relation. C'est aussi ça que ça demande.
Mais alors, justement, un peu pour creuser aussi cette dimension un peu morale et politique, des ruptures, alors toujours avec l'idée de la rupture amoureuse malgré tout, hein, bien que vous parliez de beaucoup d'autres. La rupture, on l'a vu, n'est pas exactement comme la perte. Il y a quelque chose quand même d'un geste de l'un. Mais en même temps, vous venez de parler de contrat. Quelqu'un qui envoie une lettre de rupture, ça n'est pas forcément un traître, au sens où il le dit, il le déclare. Est-ce qu'il est forcément dans le mensonge? Par exemple, quelqu'un qui ne rompt pas mais qui ment, et est-ce que c'est pas autre chose, une sorte de trahison est-ce qu'il y a forcément trahison quand il y a rupture? Il peut aussi y avoir
non.
des ruptures
non.
en plein accord.
Bien sûr.
Alors comment est-ce que vous distingueriez là aussi la rupture de la transgression ou de la violation?
C'est pas la rupture qui fait la trahison. Parfois, la rupture est juste la suite logique d'une trahison qui n'arrive plus à tenir comme telle. C'est le point de rupture au moment où la trahison devient difficile à tenir. Parfois, et c'est pour ça que dans d'autres chapitres, je montre que même la trahison, d'une certaine manière, est nécessaire. Que parfois, je trahis ma famille, je trahis mon milieu, mais que c'est une manière pour moi de devenir authentiquement moi-même.
Mais est-ce que c'est trahir? C'est rompre, ça. C'est détruire. C'est vouloir détruire. C'est comme Iago dans Macbeth, mais rompre, c'est pas forcément trahir en ce sens. On veut pas forcément détruire, mais on part.
On veut pas forcément détruire, mais on sait que ça aura cet effet et ça sera vécu par les autres comme une trahison. On va partir un peu comme un voleur, sans pouvoir...
Et c'est vécu par les autres comme une trahison. Est-ce que c'est pas parce qu'ils n'ont pas reconnu ma liberté au départ? Enfin, quand on se reconnaît mutuellement comme libre, on se rend capable de rompre sans trahir, si on se dit les choses, justement. Il y a question de la liberté derrière.
On peut les dire sans qu'elles soient audibles ou compréhensibles pour les autres. On peut dire pourquoi j'ai besoin d'avoir un autre mode de vie, d'aller vers un autre milieu, d'envisager une autre carrière. Ça ne garantit pas qu'en face de moi, on pourra entendre ce type de discours.
Oui, vous êtes toujours dans votre philosophie, Claire Marin, qui voit en nous-mêmes autre chose que des sujets abstraits et libres. Et quand finalement l'autre nous dit « je m'en vais », on voudrait pouvoir lui dire « ok, tu es libre », mais notre subjectivité sont un peu plus profondes que ces libertés contractuelles-là quand même.
Oui, bien sûr. On sent cette tension entre la légitimité du discours de celui qui explique pourquoi il part et l'espèce de résistance intérieure à le laisser partir. Quand bien même on voit que c'est le meilleur pour l'autre, là il y a une réaction évidemment égoïste à vouloir le retenir.
Donc vous ne croyez pas vraiment l'idée que la relation peut être un contrat, c'est-à-dire quand certains disent on contracte et puis après chacun fait ce qu'il veut. Et au fond, dans cette idée, chacun fait ce qu'il veut, c'est une idée de nos subjectivités, de leurs liens passionnels et autres qui est un peu superficielle. Quand
non,
même.
Je pense que le contrat n'a finalement aucune force face justement à ce qu'on évoquait en début d'émission, c'est-à-dire la puissance de ses expériences.
Et alors, clairement, puisqu'on revient aussi à vos autres approches, donc vous avez parlé du soin, vous avez beaucoup écrit sur le soin, vous avez montré aussi que, y compris dans votre livre « Violence de la maladie, violence de la vie », que le soin pouvait lui aussi être violent. C'est-à-dire, quand on veut aider, on passe par une intrusion dans le corps, c'est le soin aussi médical. Le tiers dans la rupture amoureuse, j'ai pas l'impression, ou dans la rupture tout court, j'ai pas l'impression que vous en parliez beaucoup. Ils sont présents, ces gens qui nous soutiennent. Mais en même temps, pour vous, est-ce qu'ils sont, ils sont toujours un peu aussi des intrus, finalement? Est-ce que cette question de l'intrusion est importante dans votre approche aussi?
Oui, on pourrait, c'est vrai que j'en ai pas parlé véritablement, mais on pourrait analyser tout ce que la rupture provoque comme onde de choc presque autour d'elle. Et les autres autour, aux différents cercles concentriques autour de ceux qui se séparent, sont un peu affectés par les vagues.
Ils sont un peu démunis aussi.
Sont démunis, sont inquiets, se projettent, se regardent en miroir, s'interrogent. Ou craignent la contamination. Il y a des effets un peu similaires dans le fait d'être malade, de vivre un deuil ou de vivre une rupture amoureuse. On devient un peu indésirable parce que d'abord on est triste, les gens savent pas quoi nous dire, et puis il y a quelque chose d'inquiétant dans ce qu'on manifeste à leurs yeux. Dans notre apparence, notre tristesse, notre chagrin.
Oui, ça c'est notre rapport ambivalent à la souffrance de l'autre. Ouais. Même Rousseau qui parlait de la pitié dit qu'elle commence par un mouvement de recul. C'est horrible et ça fait peur. Et au lieu d'être immédiatement dans le secours, on est un peu... Mais quand même, finalement, est-ce qu'on peut s'en remettre tout seul à un moment donné? Donc vous parlez quand même de cette... Alors vous n'employez pas le mot résilience, je pense que vous ne l'aimez pas beaucoup.
Mais, bien vu.
Mais quand même, quelles sont les ressources finalement? Est-ce qu'elles peuvent être autre chose que relationnelles? Est-ce qu'il faut, puisqu'il faut pas puiser en soi, se penser comme un héros?
Alors, elles sont relationnelles et je crois que les ressources sont aussi dans les récits des autres. Moi, je crois quand même à la puissance de la littérature pour nous aider à trouver des ressources dans ces moments de l'épreuve ou dans le geste créateur aussi, qui est déjà un moyen de se réapproprier ses propres possibles, ses propres capacités. Mais sans doute, dans un premier temps, effectivement, dans la présence de l'autre, dans la possibilité qu'il y ait encore de la confiance et de la relation avec certains. Ces figures qui sauvent un peu l'humain à nos yeux quand
on a l'impression qu'il y a un moment où la rupture, on a l'impression qu'elle brise tout et finalement de s'apercevoir que c'est pas le cas, c'est déjà ça finalement.
Et puis aussi avec ce surgissement d'un possible inattendu ou de la nouveauté, de l'imprévisible, comme dirait quelqu'un d'autre, il y a quelque chose justement dans la rupture auxquels je ne m'attendais pas, c'est-à-dire ceux qui seront les forces soutenantes, sont parfois des forces
c'est sur lesquelles
je,
croyait,
je,
c'est ouais, pas
je
là
n'aurais
où
pas
on,
compté.
On, ouais, c'est ça.
Voilà. Et ça, c'est aussi assez beau de découvrir
Et alors, leur effet, c'est de restituer la capacité à être soi-même. Au fond, quand même, vous fragilisez le sujet, qui peut être ébranlé, mais ça reste un critère pour vous, la subjectivité. C'est-à-dire, au fond, le critère de l'épreuve, c'est que la subjectivité est atteinte, que ce soit de la maladie corporelle ou la rupture amoureuse ou la violence sociale. Mais inversement, le critère du bonheur, c'est que la subjectivité resplendit, peut dire je, peut créer, peut nouer des liens. Enfin, on a l'impression que pour vous, la subjectivité est le critère ultime et que guidons-nous sur elle. Elle peut être fragile, mais c'est aussi ces réveils, ces palpitations qui sont les bons signes.
Oui, elle se reconstruit, elle se réélabore, elle s'étonne elle-même aussi dans la forme qu'elle va prendre après ce moment de démolition, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas de mise à l'épreuve profonde. Et elle se réveille au contact justement de nouvelles subjectivités, ça j'y crois quand même assez. Alors évidemment, il y a aussi les liens forts qui perdurent, c'est aussi ça que l'épreuve met à jour, c'est les liens qui continuent et qui en sont d'autant plus précieux. Mais aussi, justement, ces nouveaux visages qui apparaissent tout autour et qui font surgir dans ce sujet démoli, aussi peut-être une nouvelle forme d'expression de lui-même.
Et nos amours, c'est le titre que j'ai donné comme ça, un peu intuitivement à cette semaine. Apollinaire, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent ? La joie venait toujours après la peine. Est-ce que quand même, il n'y a pas cette idée par rapport au fleuve qui coule sous le pont Mirabeau que, bon, il y a des joies, il y a des peines, c'est mieux que simplement le fleuve qui coule sans soubresaut. C'est nos vies, c'est nos amours. Comment est-ce que vous l'entendez, Claire Marin ?
C'est sûr qu'il y a une intensité de ces vies qui est dans cette alternance de tristesse parfois extrêmement profonde et de joie.
Vous n'êtes pas d'accord avec Apollinaire, parce que nos joies ne viennent pas toujours, presque toujours.
Ouais, presque toujours. Peut-être un tout petit peu plus pessimiste. Et en même temps, voilà, c'est cette intensité-là dans la peine ou dans la joie, effectivement, qui est, je vais dire une banalité, mais nous fait nous sentir vivants. C'est Calliclès qui disait « je ne veux pas avoir une vie de pierre ». Ben voilà, là on en a une vie bien intense.
Mais ça peut être pire ou mieux. Enfin, en tout cas, c'est jamais une pierre. Ça peut être plus lourd encore qu'une pesanteur de pierre et puis plus léger que l'air. Cette expérience de l'amour.
Oui, c'est à la fois ce qui va avoir... qui va donner à ma vie une tonalité tragique, grave, mais en même temps il y a aussi une profondeur dans cette expérience de la gravité au sens sentimental. Donc peut-être qu'elle mérite aussi d'être explorée, à condition que ça se répète quand même pas trop.
Merci Claire Marin d'avoir exploré les ruptures.
Merci Frédéric Worms.
Matière à penser et nos amours, ce soir avec Claire Marin, avec et grâce aussi à Stéphanie Baudet, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Anne-Pascale Devine, Frédéric Worms. À très bientôt.